Et c'est le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Grand oral sur l'Europe pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État veut vanter l'UE de la puissance à 50 jours désormais des élections européennes.
Mais oui, Emmanuel Macron à la Sorbonne, Raphaël Glucksmann et Jordan Bardella en meeting. La campagne s'accélère. Ce sera le billet politique de Jean Lémarie.
50 ans, jour pour jour après la révolution des œillets au Portugal. Retour sur une journée qui a aussi marqué l'histoire européenne et française. Et puis nous irons à Venise où la ville vient d'instaurer une taxe pour tenter de juguler le surtourisme. Remettre l'Europe au centre du débat. Emmanuel Macron prononcera ce matin à 11h un discours à la Sorbonne où il doit détailler sa vision de l'Union européenne pour les 5 ans à venir. Un rendez-vous très attendu par son camp, promis à ce stade à une déconvenue aux élections européennes du 9 juin prochain. Et même si l'Élysée se défend de tout lien avec le scrutin à venir, Rosalie Lafarge.
Rien à voir avec un rendez-vous de campagne sur l'Élysée. C'est un moment institutionnel, un moment présidentiel qui engage la responsabilité du pays. D'ailleurs, toutes les sensibilités politiques sont invitées. Les 26 ambassadeurs des pays de l'Union aussi. Je ne crois pas avoir déjà vu ça pour un meeting, balaie un conseiller. Autour d'Emmanuel Macron, on insiste. Ce deuxième discours à la Sorbonne sur l'Europe puissance, 7 ans après le premier sur l'Europe souveraine, s'inscrit dans la vie des institutions européennes, à la fin d'un cycle qui s'achève, pour peser sur celui qui va commencer. L'objectif officiel étant de fixer les priorités françaises du prochain agenda stratégique de l'Union européenne qui doit être adopté fin juin. Dans 2 mois donc, là où en 2017, le chef de l'État donne son cap 1 an et demi avant l'échéance. Sauf que même ses collaborateurs l'admettent. Aujourd'hui, pour Sorbonne 2, Emmanuel Macron fera d'abord le bilan de Sorbonne 1 et l'Élysée n'y voit que du positif. Bon diagnostic, résultats à la clé. La Sorbonne, c'est le lieu d'une intuition, affirme encore un conseiller. Il n'est pas le seul à le dire. Autour du président, tout son camp a fait du discours d'il y a 7 ans, l'un des marqueurs macronistes. Il faut montrer que l'histoire lui a donné raison, appuie un confident. Il faut aussi se replacer au centre du jeu de l'UE et tracer des perspectives pour demain, embraye un autre fidèle. Convaincu qu'à moins de 50 jours du scrutin, il n'y a qu'en remettant les sujets européens dans le débat que la liste emmenée par Valérie Ayer s'en sortira. Et de ça, veut croire un proche du chef de l'État, dépend aussi la suite du quinquennat.
7 ans après son premier passage à la Sorbonne, le chef de l'État arrivera-t-il à convaincre sur la scène européenne? Son discours de 2017 était devenu un marqueur du macronisme. Et aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Angélique Bois, notre correspondante au Parlement européen de Strasbourg, a interrogé des eurodéputés de tous bords.
Au sein de ce Parlement, l'engagement résolument européen du président français est souvent salué, y compris en dehors de sa famille politique. Maria Marques est portugaise et socialiste.
Quelquefois je suis d'accord, quelquefois je ne suis pas d'accord, mais de toute façon je pense qu'il a contribué positivement pour l'Europe.
Analyse partagée par Andreas Schwab, membre de la droite allemande, mais qui regrette tout de même que le chef de l'État ait manqué de pouvoir de conviction, dit-il, auprès des Français et de certains de ses partenaires.
Macron a toujours démontré une très grande ambition européenne. Et malheureusement, avec M. Scholz, c'était trop difficile. Il n'a pas pu convaincre.
Chez les Verts, c'est l'activisme de Macron en faveur de l'écologie qui a séduit en début de mandat, car au fil du temps, il nous a beaucoup déçus, déclare l'Allemande Anna de Parnay.
Oui, on a un peu désenchanté. Et quand même, on a vu aussi beaucoup M. le Président de la France utiliser l'Europe pour des fins complètement françaises. Sur le nucléaire, ça s'est senti dans toutes les discussions. C'était difficile.
Pour la Polonaise Rosa Thun, qui siège chez les centristes, aux côtés des macronistes, tout cela est bien sévère pour un homme, dit-elle, qui a une vision et qui a su redonner du poids à l'Europe dans une période troublée.
Il comprend très bien que le plus unis et mieux organisés nous sommes, et le plus notre influence sur le monde entier peut être plus fort.
Dans les groupes d'extrême droite, le président français est associé au bilan de la Commission. Gerolf Hannemans est belge et siège dans le même groupe que les élus du Rassemblement national.
On ne peut pas continuer comme ça, dans la voie globaliste, éco-fanatique, etc. Les Français doivent se débarrasser de Macron. Nous allons essayer de nous débarrasser de von der Leyen.
Ces eurodéputés n'écouteront pas le discours d'Emmanuel Macron. Ils seront ce matin en plénière pour la dernière séance de vote de la mandature.
Les eurodéputés qui ont adopté hier une directive pour lutter contre les violences faites aux femmes, sensibilisation au consentement, criminalisation des mariages forcés et des mutilations génitales. Ce changement est un progrès pour Sarah Abramovic, elle est chirurgienne spécialisée dans la réparation des femmes victimes de mutilations sexuelles. Elles sont 600 000 en Europe.
Le fait que la loi criminalise, ça donne toujours une visibilité importante et ça montre, ça positionne les États et ça positionne l'Europe. Donc c'est primordial. L'excision est interdite, elle est interdite à peu près partout hein, dans le monde. Mais le fait que ça devienne et que ce soit jugé comme un crime montre la force et l'importance que ça a de passer les violences faites aux femmes à cette échelle-là. C'est des pratiques qui se font normalement plus du tout depuis des années et des années sur le sol européen. Alors de temps en temps, malheureusement, comme il y a 2 ans à Tours, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 petites filles qui avaient été excisées sur le territoire français. On ne remet pas en cause les traditions, c'est la norme dans beaucoup d'endroits. Puis alors ce qu'on voit un peu maintenant, de façon un peu plus compliquée, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adolescentes en fait, qui partent au pays pour les grandes vacances et qui reviennent jamais, qui sont excisées et mariées là-bas, et ça c'est catastrophique.
Propos recueillis par Naïli Péan.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. Il y a 50 ans, jour pour jour, démarrait la révolution des œillets au Portugal.
Oui, référence aux fleurs accrochées par les militaires révolutionnaires sur leurs uniformes ou leurs fusils. En une journée, ils ont mis fin à 40 ans de dictature, un retour à la démocratie qui est aussi une histoire européenne et une histoire française. Tout d'abord parce que c'est au château d'Hérouville, dans le Val d'Oise, que Zeke Afonso, en exil, a enregistré Grandola Villa Morena. C'est la chanson qui a donné le signal de toutes les casernes, Chloé Le Prince.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidade.
Quand cette chanson lance le début du coup d'État, à minuit 20, le 25 avril, il y a 50 ans, Mario Soares est à Bonn. Le dissident numéro 1 veut convaincre le SPD de l'aider à contenir la poussée communiste qu'il redoute le jour où la dictature tombera. Retour en trombe à Paris, c'est là que vit Soares depuis 1970. Quelques heures et puis le voilà dans un train pour Lisbonne. Et 3 mois plus tard, pas plus, c'est François Mitterrand qui fait le voyage en juillet 1974. À peine élu en 1981, cette fois c'est lui, Soares, que Mitterrand invite chez lui à déjeuner le mardi qui suit le second tour. Mais quand le Portugal, redevenu démocratique, adhérera à la CEE en 1986, ce n'est pas seulement le fruit de l'alliance de Soares avec les socialistes européens. Et ce que montre l'historien Victor Pereira, c'est que la migration a affermi la démocratie, l'a rendue possible, malgré la surveillance de la dictature, y compris sur le sol français.
En France, ils sont près d'1 million quand démarre la révolution des œillets. Et avec du recul, Chloé, on peut dire que des Portugais de l'étranger ont fait changer le pays sous la dictature.
Avec l'exil, des Portugais modestes ou illettrés rencontrent des compatriotes intellectuels, des militants politiques. Alors qu'à l'intérieur du pays, les mondes avaient toujours été beaucoup plus cloisonnés. Avec l'exil, des émigrés ont aussi financé l'achat de terres et remis en cause des hiérarchies du monde rural et la prime aux grands propriétaires soutenus par la dictature.
Salazar appelait à ses exilés des traîtres, mais malgré la répression, les choses sont plus complexes.
C'est finalement l'ambiguïté qui règne vis-à-vis des Portugais de l'étranger. Ce que Lisbonne redoute par-dessus tout, c'est que les Portugais en exil se fixent pour de bon à l'étranger. Alors le régime va jouer sur les deux tableaux. Le successeur de Salazar, Marcelo Caetano, valorise les rêves d'ascension sociale. Il compare les émigrés au Vasco de Gama des Grandes Conquêtes, les appelle les audacieux. Quand, avec la démocratie, les élections libres reviendront, beaucoup voteront en réalité à droite et pas pour Soares. Mais cette ouverture démocratique, ce sera aussi eux qui l'auront porté.
Chloé Le Prince. La pression de la rue toujours plus forte en Israël pour réclamer la libération des otages du 7 octobre. Elle a été renforcée hier par une vidéo postée par le Hamas. On y voit l'un des otages les plus connus, Hersh Goldberg Polin, 23 ans. Sous la contrainte de ses geôliers, il demande à son gouvernement de tout faire pour le libérer. Ce message a provoqué hier la fureur de dizaines de manifestants à Jérusalem. Thibault Lefebvre.
À Jérusalem, son visage souriant, juvénile, photographié de 3/4 est sur tous les murs, et notamment ceux de son bar préféré, le Sira, le repère de la jeunesse de gauche en plein centre-ville. Et c'est cette jeunesse qui est sortie hier soir pour d'abord manifester devant la résidence de Benjamin Netanyahou, et puis interpeller le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, qui sortait de la grande synagogue. Peu de temps avant, les parents de Hersh Goldberg Polin, Rachel et John, ont pris la parole dans une vidéo tourner chez eux pour demander au plus vite une trêve.
Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel. Il s'adresse à tous les leaders engagés dans les négociations. Le Qatar, l'Égypte, les États-Unis, le Hamas et Israël. Soyez courageux, saisissez cette opportunité et trouvez un accord pour que nous puissions retrouver nos proches et mettre fin aux souffrances dans la région.
La maman, Rachel, a le dernier mot.
And Hersh, if you can hear this,
et demande sobrement à son fils et avec beaucoup de dignité de rester fort et de survivre.
Stay strong, survive.
Le cabinet de guerre israélien doit se réunir aujourd'hui pour discuter des négociations et tenter de sortir de l'impasse.
Pas de trêve en vue pour le moment. Les efforts du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou portent plutôt sur la préparation d'une offensive dans la ville refuge de Rafah au sud de la bande de Gaza. Une opération envisagée depuis le début de l'année mais dont le début serait maintenant proche. C'est un tournant politique et militaire. Les États-Unis ont livré à l'Ukraine les premiers missiles de longue portée débridés, des attaques MS capables d'atteindre une cible à plus de 300 km. Une décision justifiée par le président américain Joe Biden par l'usage de ces mêmes armes par la Russie. Le programme européen Copernicus alertait en début de semaine sur l'accélération des effets du dérèglement climatique en Europe. Canicules, inondations, sécheresses sont appelées à être de plus en plus intenses et récurrentes. Pour s'y préparer, la Croix-Rouge publie aujourd'hui un rapport. L'association y fait des recommandations et lance un appel, Véronique Robérotte, à l'engagement individuel et collectif.
Les bénévoles de la Croix-Rouge le constatent sur le terrain. Les événements climatiques sont un accélérateur de vulnérabilité. Aussi, comme il existe un plan chaud en cas de grand froid, il faudrait désormais un plan froid à activer les jours de canicule, estime Philippe Dacosta, le président de la Croix-Rouge.
Dans le pays, pendant de nombreuses années, des fontaines, des bains-douches étaient mises à disposition pour les populations. L'évolution des politiques publiques s'est restreinte en la matière et nous sommes convaincus que la montée des températures et les canicules augmentant, on devrait pouvoir retrouver pour une taille de ville moyenne un point d'eau, un point douche, un point d'accès hygiène qui garantit justement ces conditions minimums pour apporter un service aux populations qui en ont le plus besoin et qui n'ont pas ça dans leur domicile.
Parce que les crises climatique nécessite l'envoi de plus en plus de bénévoles, comme récemment dans le Pas-de-Calais ou la Bourgogne. Pour les inondations, la Croix-Rouge fait la proposition de pouvoir constituer un corps de volontaires, des salariés mobilisables pour aller porter secours. Philippe Dacosta.
Nous sommes persuadés qu'il faut constituer un corps de volontaires formé aux urgences et mobilisable en cas de crise, ce qui appelle une forme de cadre juridique incitatif à l'engagement, mais aussi à la mise à disposition de conditions libérant les volontaires dans leurs entreprises ou dans leur administration publique. Ce que porte notre rapport, c'est une ambition qui vise à lancer un appel aux citoyens pour qu'ils se préparent et s'engagent. Tous les acteurs, tous les citoyens sont concernés par les crises et c'est aussi comme cela que nous pourrons coordonner l'action avec les pouvoirs publics.
La Croix-Rouge qui entend aussi apporter un soin particulier à la formation de ses bénévoles sur la prise en charge des traumatismes. 20 à 50% des populations exposées à des catastrophes naturelles développeraient des troubles psychologiques.
Eux mesurent chaque jour les effets du dérèglement climatique avec la montée du niveau de l'eau. Les habitants de Venise constatent aussi l'impact du surtourisme. Chaque jour, il y a en moyenne 40 000 visiteurs, mais ce nombre peut s'envoler les week-ends et durant les vacances. Pour faire baisser la pression touristique, la ville met en place à partir d'aujourd'hui une taxe les jours de forte affluence. 5 euros tout pour tous les touristes de plus de 14 ans venus à la journée. L'objectif, Bruno De Vic, c'est donc de limiter ces pics de fréquentation.
La taxe sera due jusqu'à 16 heures. Sont exemptés les 260 000 résidents de toute la région Vénétie. C'est trop pour Matteo Secchi de l'association d'habitants Venezia.com.
Ce sont eux qui font augmenter de manière disproportionnée le nombre de personnes certains jours. On se fiche du monde.
Vous êtes exemptés si vous dormez à Venise. L'hôtel peut vous fournir la preuve, un QR code. Bruno tient un établissement dans la lagune.
C'est une perte de temps. Ça ne règle rien. Il faudrait un nombre limite de personne en plus de ces 5 euros. C'est juste pour faire rentrer de l'argent.
La mairie jure que le coût de la mesure est supérieur aux 700 000 euros attendus. Les contrôles seront légers. L'amende commence à 60 euros. Et non à un numerus clausus. On ne ferme pas la ville. C'est une première étape, dit Michele Zuin, l'adjoint aux finances.
Nous voulons savoir combien de personnes exactement sont dans la ville. Cela servira pour la deuxième étape en 2025. Il y aura un seuil de visiteurs. En dessous, vous payez moins 2 ou 3 euros. Au-dessus, vous payez 10 euros.
Pour ce 25 avril, mardi, 60 000 personnes s'étaient inscrites sur le site. 10% devaient effectivement payer la taxe.
Bruno Duvi, correspondant de France Culture en Italie. C'est là un symbole du tourisme parisien. matin, les ailes du cabaret Le Moulin Rouge se sont effondrées cette nuit. Il n'y a heureusement pas eu de blessés. La météo avec un ciel couvert et des averses ce matin sur le sud-ouest. Ces pluies, elles se décalent sur le centre et sur l'île de France en fin de journée. La journée sera bien ensoleillée sur le sud-est, couverte sur le nord. Les températures encore négatives ce matin sur le nord-est, de moins 2 à 2 degrés, entre 2 et 7 sur le reste du pays. Et cet après-midi, de 9 à 14 au nord, de 11 à 16 sur le reste du pays, avec une pointe à 20 degrés au bord de la Méditerranée.